Bienvenue au 3e congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide.
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joint ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Canus en 2.2 MHz. Encore un petit retard de décollage, mais...
Mais c'est pour la bonne cause qu'on maintenant on enregistre l'émission. Ah, du coup, on a un petit peu de soucis des fois à maîtriser l'appareil enregistreur. Donc voilà, ça explique un petit peu le départ en couac.
Mouvementé, mais bon, on y arrive, on s'en sort. Et maintenant, surtout, donc, vous pouvez nous retrouver... sur le site du cirque.
Sur le site du cirque qui vous donne accès à la page la page blog Cannabis Circus l'émission sur le blog des émissions de radio de Radio Canu.
Voilà, donc voilà. Vous pouvez aussi y accéder via Radio Canu.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc nous laisser un petit peu de temps pour qu'on mette en ligne les émissions. Donc là cette semaine, on devrait pouvoir mettre l'émission de la semaine dernière et celle de cette semaine. Voilà. C'est tout.
Voilà. Donc, pour le sommaire de ce soir, beaucoup de choses sur les USA où deux nouveaux États ont légalisé le cannabis thérapeutique, l'Oregon et l'Alaska. Un troisième a dépénalisé, on va dire comme ça. C'est la ville de Washington. Voilà, c'est en demi-teinte. Par contre, la Floride nous a étonnés, a même refusé le cannabis thérapeutique, comme quoi les États américains bougent beaucoup. Alors, il y a des évolutions.
Et pour la Floride, en fait, il s'est passé de pas loin. En fait, il y a une majorité pour, mais pour que ce soit vraiment acté, il fallait qu'ils fassent au moins 60% des suffrages. Ils ont fait 57.
Tout à fait.
Donc c'est quand même...
Mais nous allons revenir sur tout ça. On a 2, 3, 4 articles sur ce qui s'est passé aux États-Unis, dans ces différents États, dans ces différentes petites votations. Donc voilà, on reviendra dessus. On continuera par plein de petites brèves diverses et variées. On ira faire un tour en Belgique, bien sûr. On ira voir à Alençon ce qui se passe avec des jugements qui nous étonnent. Hein. Alors certains un peu légers, d'autres beaucoup moins. Des petites brèves assez marrantes avec une mémé qui fait des go-fast en deux chevaux.
Une dame âgée.
Voilà, une grand-mère une femme, en tout cas, puisqu'elle a des petits-enfants.
Une femme mûre, responsable, expérimentée, faut dire.
Voilà, donc fait des go-fast avec sa deux chevaux. Elle va d'Ariège à Olot, différentes choses un petit peu marrantes, mais bon. Et puis, on verra. Il y a un article du Point assez intéressant, ou en tout cas qui pose des questions intéressantes sur guerre aux drogues, guerre contre minorités ethniques. On reviendra aussi là-dessus. Et puis on finira par des sujets qui touchent plus qui touchent moins le cannabis et plus les drogues et en particulier l'héroïne et les opiacés avec un article sur New York et un article sur des salles d'injection et les tests qui ont été faits dans des villes moyennes, tests qui sont passés assez inaperçus mine de rien. Mais qui sont assez réussis a priori et que les scientifiques proposent de généraliser. Voilà un petit peu pour le sommaire de
cette émission.
De ce lundi 10 novembre. Autre chose à rajouter pour le cirque, un petit truc.
Oui, comme toujours. Alors ici des petites nouveautés, pas uniquement sur, enfin que vous pourrez remarquer sur le site internet du Cirque Lyon, www.cirque-lyon.fr. Il s'agit de nouveaux livres que nous avons en notre possession au cirque et que nous n'avions plus. Donc il y a une nouvelle édition, on va dire la dernière de Fumée clandestine, une édition de 2005 je crois ou un peu après. Mais surtout, on n'en avait plus de ces exemplaires, mais on a de nouveau des exemplaires de L'Empereur est nu de Jacques Erreur, un livre
mythique,
absolument incontournable et rare. Et un autre livre absolument incontournable pour tous les amateurs de botanique, c'est La botanique du cannabis. Voilà, comme son nom l'indique, un livre sur la botanique du cannabis pour celles et ceux qui s'intéressent à des aspects assez pointus et, je dirais, scientifiques au niveau de la botanique du cannabis. Voilà. Donc nous avons ces ouvrages à notre disposition au Cirque Lyon. Vous pourrez bientôt retrouver, alors c'est très rapidement, je pense d'ici demain ou après-demain, vous pourrez retrouver ces livres en ligne sur le site internet du Cirque Lyon à la rubrique VPC. Et vous pourrez les commander si cela vous intéresse. D'autre part...
VPC pour vendre par correspondance.
Et oui, parce que c'est possible. Et d'autre part, pour celles et ceux qui souhaitent adhérer au Cirque Lyon, l'année 2015 se profile à l'horizon. Donc il est également possible sur le site internet du Cirque Lyon de devenir membre du Cirque Lyon ou de la Fédération des Cirques, n'importe.
Voilà, et tiens, tant que j'y suis, j'en profite pour faire un petit salut à ceux qui nous écoutent par Internet, puisque c'est aussi possible de nous écouter des quelques coins du monde par Internet.
Voilà, sur le site, toujours en allant sur le site du Cirque Lyon, en cliquant bien, on arrive sur sur la page Internet du Radio Canu qui permet d'écouter en direct.
Voilà. Ouais. Allez, donc, vous êtes sur le 102.2 MHz et on part un petit peu en musique avant de revenir sur ce sommaire.
En blanc, Corinne se branche sur le réseau 3. Pas de chat, la baston sur du son s'arrache des tympans. Je fais des adversaires différents, des trucs violents, du sang, des dents, un combat éternel. Attends, viens, croque Christelle, le téléphone en main, appelle Jekyll.
C'est un combat de rue, Jekyll Spruce, quand y'a combat, une vraie battue. Quand MA3 cherche le tiroir abattu, par la force de nos frères, on pas rock la place, Jekyll chope la gaffe et aboie. Quand son papa sort et referme la porte, combattu, obligé de bouger avec toute mon escorte, fais du porte à porte, tu cherches l'ennemi. Car quand c'est pas lui qui me cherche, c'est moi qui viens chercher l'ennemi, et c'est sanguinaire. Car dans la rue, c'est la guerre, c'est l'enfer, et les démons font en sorte que tout dégénère. Parole d'un mec qui y vit, 24 sur 24, je balance un style frais. Tous mes refrains car le temps
a dit mais wow le fait, sinon signe pété. Entrez quand la rue est à ring, éclairons de son côté. Compète, guerre, compète, terre, on compte son coup sur coup, gère. Esquive, serre, fils et les taux resserrent. Dans l'ordre, mieux vaut mort qu'être mordu. J'force, discorde et ma corde raide pour le coup dépendu. Depuis le fruit défendu, la vie est un combat que mène. Des soldats produits pour l'argent et pas pour une cause saine. J'agis mes faibles, mon cosmos est l'énergie vitale de ta tête. Ma technologie nique tech, ma sape. Quand j'en jette des coups violents, impertinents sont les vérités insolentes, répète. Combat de rue, laisse tomber, je combat depuis sur le bitume.
Hey, Sam le caille du game, t'as remis les idées en place. Tu veux un face à face encore plus coriace, tenace. Pousse pas, y'a de la place. On veut te faire comprendre qu'autour de toi on fait une ronde. Ton troisième adversaire.
Mes mots ne sont pas fictifs. Banaru, pas qu'un guillomite. Faut qu'on s'évade de cette zozon. Faut qu'on s'envole comme des faucons. La rue sans cesse te blesse, se laisse des traces, des fraises. Presse le bouton espoir
et t'y arriveras presque.
Je crois qu'une âme verbale me dresse en état d'âme. Contre quiconque a osé violenter mon âme. La rue bannie, la rue salie, la rue manie. Autant d'orphelins qu'en Roumanie. Sache que le vice ne reflète qu'une oasis. Pour que Pascal Marie Curie soit un
combattant pharaon. Je revête le courage du lion, la compète une obligation, la survie ma potion.
Action.
Je me dois de marcher à tâtons sur la rue mon ring. Passons à coups de bâton, on se crie dessus lors du premier ring. Premier son de cloche gringos, ça c'est dès la naissance. J'entends des cris des bambinos qui font face à leur existence intense. Je boxe la malchance comme un punching ball. Ceux qui atteignent le deuxième monde, c'est ceux qui ont du punch dans les halls. C'est drôle, la fortune a refusé mon amitié. Je m'épaule de la rage et du vice pour pouvoir la piéger. J'ai pigé quand ce monde attrape à l'espace. Éviter les tartes, car la défaite a un goût âpre.
Philo a fait ses présentations sur cette sélection. Rien que des champions montent le son à fond, garçon. Les Nyon Bluff s'abattent sur le béton comme du plomb. Voici le petit d'une nouvelle génération.
Bring the noise, escaladin, protège-moi des insultes. J'ai 12 13 ans, plein et nul, c'est du chien. La rue, je tiens, ça ressemble à un Street Fighter. Le mène à 3-1, je viens, appelle-moi Merlin. Sélectionne ton joueur et parmi les meilleurs. Le poil black, poil white, veut le battre des ploucs, des bachis bouzouk. Réussir avant le clip, dis qu'on coupe. M.O. Savoir, dardard, c'est bizarre. Le succès, je ne verrai jamais venir des stars. Flûte, je ne sais rien, lutte, que le but c'est cut. Merde, zut, oh le gain, un peu dans les reins. Qu'il n'en reste plus qu'un, j'ai besoin de son soutien.
Et on vient de s'écouter tout à fait Ménage à trois, Combat de rue.
Voilà, petit morceau inédit, parce qu'on ne l'avait jamais passé dans notre émission.
Voilà, on passe toujours les mêmes disques, mais il y a plein de chansons qu'on ne passe pas dans le set disque. Et voilà. Donc là, on essaye de vous faire écouter un petit peu nos inédits d'auteurs moins connus, mais.
Voilà, un morceau d'hip-hop sympathique, en tout cas. Alors.
Revenons-en donc à ces États-Unis et avec leur mode d'élection un petit peu bizarre. Bon. Donc on va pas s'intéresser à l'élection du président, des chambres, du Sénat et tout ça. Mais par contre, en même temps, il y a plein de petites votations. Et donc on va s'intéresser à celle-ci. Il y a deux ans, souvenez-vous, ça a été le Colorado et l'État de Washington qui avait fait la une en légalisant le cannabis récréatif. Et là, il y en a deux de plus qui ont voté pour le cannabis récréatif. Donc on en est à l'Oregon et l'Alaska. Et Washington DC, donc, elle a aussi accepté la proposition 71, donc qui légalise le cannabis à usage récréatif, mais toujours pas la vente. Donc c'est quelque chose qui a été accepté par 69,4% des votants. Et donc tous les Américains de plus de 21 ans ou toutes les personnes d'ailleurs de plus de 21 ans peuvent posséder 57 grammes de marijuana. Ils ont le droit d'en donner jusqu'à 28 grammes.
Ça c'est
à d'autres adultes. Ils ont le droit à cultiver 6 plants de cannabis à leur domicile, ce qui est quand même raisonnable. Ouais. Mais bon, le fumer de la marijuana en public reste interdit. Mais bon, vu que boire de l'alcool en public est interdit aussi, il n'y a plus de discrimination à ce niveau-là. Hein.
A priori, voilà.
Utiliser des drogues légales ou semi-légales est interdit.
En revanche,
dans l'État, donc dans la ville de Washington, puisque là on est bien dans la ville. La vente est toujours pas autorisée. Donc, alors là-dessus, c'est assez bizarre parce que certains dans l'État se disent, tant qu'on y est, autant légaliser la vente. Au moins, ça nous ferait rentrer des taxes. Donc, l'aspect pécunier rentre dans leur réflexion. Mais d'un autre côté, la ville de Washington, vu que c'est là que sont les instances fédérales, est soumis quand même à un double saut ou une double autorisation. Et pour des lois comme ça, a priori, il va leur falloir l'autorisation donc de la Haute Assemblée et donc de l'État fédéral. Et là-dessus, rien n'est moins sûr. Mais comme quand même les Américains sont attachés à une certaine démocratie, on va dire comme ça, comme les électeurs ont voté pour, la Chambre va peut-être se plier aux électeurs, on ne sait pas trop. En tout cas, le sujet est remonté assez loin dans les instances et va être traité donc sans doute dans les années qui arrivent par les par les autorités fédérales, ce qui va peut-être faire avancer le schmilblick. Donc, on va voir. Par contre, donc, voilà, c'est l'Oregon et l'Alaska qui ont autorisé aussi le cannabis à usage récréatif.
Alors, l'Oregon, petite remarque, c'est pas très surprenant, parce que déjà, il y a 2 ans, ils sont passés tout près. La proposition avait été rejetée de très peu, en fait, si je me souviens bien. Et là, ils ont réessayé une nouvelle fois, là, ce coup-là, c'est passé, quoi.
Voilà, donc...
Et l'Alaska, c'était un peu latent depuis un paquet de temps aussi. Et je sais pas si vous vous rappelez, à l'occasion d'une émission un lundi, là, il y a quelques semaines, je vous parlais de cette journaliste qui intervenait sur sa chaîne d'information et qui présentait des cultivateurs en Alaska qui attendaient un changement de la loi et elle a fini par dire à l'antenne en direct je démissionne, je quitte mon boulot, la présidente de l'association des cultivateurs d'Alaska c'est moi. Et je démissionne sur le champ, ce qui avait créé un certain trouble en direct à l'antenne de la chaîne de télévision locale. Et après, voilà, elle avait répondu à des interviews et donc elle était très enthousiaste à l'idée de voir changer la loi en Alaska. Et ça s'est passé. Donc voilà, elle doit être ravie, cette présidente de l'association des cultivateurs de l'Alaska.
Voilà, et puis il y a d'autres États donc qui s'y préparent, donc on y reviendra puisque la prochaine c'est pour 2016. Mais il y aurait la Californie, le Massachusetts, le Maine, le Nevada ou encore l'Arizona qui pourraient aussi se mettre à légaliser le cannabis récréatif.
Oui, je suis même étonné qu'ils parlent pas du New Jersey où se trouve New York, parce que New York c'est une ville où on a déjà parlé de changer la loi. Je pense qu'il n'y a pas que à New York dans New Jersey où on a envie de faire avancer la loi. Ils n'ont pas parlé du Vermont non plus. Je suis étonné. Je pensais que ça était en bonne voie là-bas. Mais bon, après, ça devient presque difficile de suivre tant les choses avancent vite. Je suis pas certain qu'il y a 5-6 ans, on aurait même imaginé ceci aux États-Unis, même si on sentait que le vent tournait. Je trouve que ça va super vite, en fait.
Oui, bah, les choses vont vite. D'ailleurs, c'est un petit peu l'article suivant qui me dit que les États-Unis commencent à devenir un peu progressistes sur différents sujets.
Le cannabis, oui.
Il n'y a pas que le cannabis, hein, puisque bon, au cannabis, il y a eu d'abord l'usage thérapeutique hein, qui a commencé pour le premier en 1996, donc ça commence à faire bientôt 20 ans.
Ouais,
quand
c'est
même.
En Californie, oui.
Et donc, ça évolue maintenant. 22 États et le district de Washington donc l'ont suivi. Donc, presque la moitié, 46% des Américains vivent dans un État où le cannabis thérapeutique est autorisé. Voilà, si la Floride avait voté pour le week-end dernier, on en serait à plus de 50%. Mais donc, on devrait pas tarder à basculer et avoir quand même cette majorité des États pour la légalisation du cannabis thérapeutique. Donc sur le cannabis récréatif, on en a 15 sur 20. Mais il y a aussi d'autres sujets où ça avance un peu, hein, où on peut dire que les États-Unis ont fait des gros progrès. C'est sur le mariage homosexuel. On en est maintenant à 32 États qui ont autorisé le mariage homosexuel, le premier étant le Massachusetts en 2004.
Massachusetts.
Yes, donc ça fait que 10 ans, donc ça évolue. Et puis un autre symbole d'une Amérique qui change, c'est la peine de mort. Où maintenant, il y a quand même un tiers des citoyens américains qui vivent dans un État où la peine de capitale n'existe plus. Donc ça fait pas beaucoup, hein, ça fait que 29%. Mais bon, il y a 20 ans, c'était le cas que pour 12% de la population. Donc ça a quand même presque triplé. Donc voilà, ça 2,5%. Donc ça avance, quoi. Donc les États-Unis sont quand même d'une certaine façon assez progressistes, et on peut dire sans doute plus progressistes que les Français, vu que nous on s'obstine dans des trucs assez barbares. Et même si le mariage homosexuel a été adopté, on se souvient dans quelles conditions et on voit dans quel pays assez rétrograde nous sommes.
Ouais, 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 ouais. Et puis il faut savoir que, comment dire, enfin, l'histoire du mariage pour tous, s'il y a un changement de majorité dans quelques années, eh ben, on ne sait pas s'ils reviendront pas dessus. Parce qu'il y en a qui sont quand même assez, assez virulents sur ce, sur cette loi, en fait.
Oui, oui,
donc,
mais.
C'est pas acquis.
C'est pas acquis, mais ce qui est marrant aussi, c'est que c'est quelque chose qui transcende les divisions actuelles, habituelles entre démocrates et républicains. Parce que des démocrates sont contre. Et il y a aussi des républicains un peu libertariens ou...
Ah, mais tu parles aux États-Unis, là.
Aux États-Unis.
Ah, non, je parlais de la loi du mariage pour tous en France. Mais effectivement, ah, oui. T'as raison. Intéressons-nous à ce qui se passe aux États-Unis pour le cannabis, par exemple.
Mais là aussi, hein, aux États-Unis, ça dépend aussi du pouvoir politique en place. C'est, là aussi, tous ne respectent pas toujours ce que veulent les électeurs, donc c'est très compliqué.
Mais je rebondis un peu sur ce que tu disais, c'est, sur le cannabis, ça transcende un peu les clivages. Et en tout cas, il y a une personnalité qui est assez populaire actuellement aux États-Unis, qui fait partie du Tea Party et qui s'appelle Rand Paul. Et donc quelqu'un plutôt de conservateur, et lui visiblement il dit qu'il reviendra pas sur les lois qu'ont voté les citoyens dans les États sur le cannabis par exemple, alors que toujours dans le parti républicain il y en a qui sont vent debout et qui disent qu'ils lutteront avec toute leur plus grande fermeté contre toutes ces lois. Donc oui, effectivement, ça transcende un peu les clivages. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi du côté des conservateurs des progressistes sur les lois concernant le cannabis. On en avait déjà parlé. Il y avait eu un article dans un Assu de journal il y a quelques années où je crois que c'était Laurent Apple, mais je suis pas sûr, qui avait rencontré des conservateurs du Parti républicain aux États-Unis qui étaient des fervents anti-prohibitionnistes. Qui avait compris que c'était une loi inutile, qui coûtait beaucoup d'argent et qui en plus était une loi voilà, raciste. Donc bon, ça avance, c'est bien.
Voilà, toujours sur les États-Unis quand même, et pour revenir sur la ville de Washington. Donc c'est quand même une ville dans laquelle le taux d'arrestation lié au cannabis est le plus élevé du pays. Donc ça va changer, puisque maintenant, il est légal d'en posséder, jusqu'à 57 grammes.
Oui, alors, petite parenthèse, il faut savoir que Washington, c'est une ville où il y a beaucoup d'Afro-Américains. Beaucoup, beaucoup, une des villes où il y en a le plus aux États-Unis, sur la côte Est notamment. Et donc, c'est pas étonnant non plus que ce soit les plus arrêtés. Alors déjà que dans les autres villes où il y en a peut-être moins qu'à Washington, ils sont déjà beaucoup arrêtés aussi. Donc c'est pas que à Washington.
Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on va revenir avec l'article du Point tout à l'heure. C'est le fait que quand même dans les prisons, donc il y a déjà beaucoup de gens qui sont arrêtés à cause du cannabis. Mais en plus, les minorités ethniques sont surreprésentées, alors que l'on sait qu'elles ne représentent dans la réalité pas plus
d'usagers
que les autres, ouais. Et pas plus de vendeurs en proportion que les autres. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de notable, parce que c'est quand même une loi qui, même si elle n'est pas raciste, a une application totalement raciste et totalement subjective de la part de policiers. Donc on arrive sur ce problème de contrôle aux faciès et je dirais de première relax aux faciès aussi assez facile de la part des policiers, ce qui fait que les gens de minorité ethnique sont plus arrêtés que les autres. Donc c'est vrai aux États-Unis, c'est aussi vrai en France.
Mais une application raciste de la loi, comme tu disais. Mais aussi, il faut quand même le dire, il y a de fortes composantes de racistes au sein des forces de police, qu'elles soient états-uniennes ou françaises, j'ai envie de dire.
Oui, c'est fort possible.
C'est une réalité également. L'un ne va pas sans l'autre, comme par hasard.
Voilà, voilà. Encore un petit truc à rajouter sur ce qui se passe aux États-Unis ou on passait de la musique.
On va passer de la musique. Je pense qu'on a fait un peu le tour.
Allez, ça roule.
J'ai traversé tous les États en douce mes propres frontières. Je les ai passés clandestins, me cachant ma propre folie. Les états d'âme, les états d'homme, l'état des choses, l'état d'ennui, les tapis rouges que j'ai souillés, les taverniers qui m'ont saoulé, l'état de nos pauvres amours, et l'étalage de nos violences, ont anéanti à jamais l'état de ma pauvre cervelle. Dans l'établissement où je suis, les états de choc sont admis, mes étagères à souvenirs se trouvent dans un état critique. J'ai traversé tous les états en douce mes propres frontières. Je les ai passés clandestins, me cachant ma propre folie, me cachant ma propre folie, me cachant ma propre folie.
C'était Casse-Pipe, État Critique.
Encore un morceau inédit.
Voilà, donc c'est sur ce disque-là, il y en a quelques-unes, je ne sais pas pourquoi, on ne les avait jamais passées.
Ah, ou... Jusqu'à la fin de l'émission, vous y aurez droit.
On va essayer encore de. Il y en a peut-être encore une ou deux qu'on n'a pas dû passer souvent.
Ouais. Alors, retour à l'actu. Alors, bon, on vient de passer un petit moment à parler des États-Unis où il se passe des choses, où les mentalités évoluent et. Globalement, plutôt dans le bon sens, enfin, en tout cas en ce moment. Il y a une dizaine d'années aux États-Unis, avec l'avènement de Bush au pouvoir, c'était pas super emballant comme ambiance, quoi. On n'avait pas accès à ces statistiques-là non plus, hein. Enfin, en tout cas, j'en ai pas le souvenir. En tout cas, là, voilà, on voit bien qu'aux États-Unis, il y a une espèce de courant progressiste qui souffle dans la population. Encore une fois, je dis globalement, parce que selon les endroits, dans certains lieux, à mon avis, c'est pas si évident. En France, par contre, bon, c'est pas tout à fait pareil. Et en tout cas, il y a des gens qui s'en rendent compte, et notamment des lycéens. Il y a eu quelques mobilisations, rassemblements de lycéens la semaine dernière, par exemple jeudi dernier. Il y a des élèves qui se sont réunis pour manifester contre les violences policières suite à la mort de Rémi Fraisse, militant écologiste, qui est décédé, qui a été tué en fait, hein, suite à une grenade qui lui a explosé dans le dos, je crois. Enfin bon, bref. En tout cas, et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Sophia Aram ce matin sur France Inter, qui a fait un joli discours sur Rémi Fraisse, qui expliquait un peu qui il était et quels étaient ses projets, ses passions, qui l'a humanisé, parce qu'on a entendu vraiment des horreurs sur Moi, j'ai entendu des trucs abominables hein, sur celle de Rémi Fraisse, qui était un djihadiste vert, enfin des trucs lamentables, quoi. Donc merci Sophie Aram ce matin sur France Inter d'avoir réhumanisé Rémi. Et en tout cas voilà, donc il y avait des manifestations de lycéens un peu partout à Paris la semaine dernière. Et il y a eu un article, dans Le Monde je crois, une dépêche de l'AFP plutôt. Et dans cette dépêche, je ne vais pas tout vous lire, mais en tout cas il y avait Clara, 18 ans, en terminale ES. Était place de la nation et qui se désole, je cite, hein, de cette France qui se dit tournée vers le futur, alors qu'en fait pas du tout. On est dirigé par des vieux, on est en retard sur tout. Par exemple, pour la gestation pour autrui, c'est toujours pas permise. Et le cannabis, que le joint soit légalisé ou pas, ça limite. Je m'en fous, mais qu'on arrête, il y a du trafic, il y a un trafic de malades et personne ne fait rien, ok. C'est mauvais pour la santé, mais le vin aussi, c'est mauvais. Alors stop, on n'est pas des cons, quoi. Il y en a marre. Alors, voilà. Bravo Clara, 18 ans, et bravo à tous les autres dont j'ai pas cité les propos, mais qui réagissent et qui en ont marre, voilà, de ce pays qui se dit tourné vers l'avenir et qui se prétend être le pays des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et qui... fait du surplace.
Voilà, continue à enfermer ces jeunes, à les contrôler, à les...
Que dis-je ? Qui marche en arrière. Il n'y a pas eu d'avancée sur toutes ces lois, enfin toutes ces choses dont parlait Clara, mais il y a même eu des retours. Il y a eu la loi de sécurité quotidienne Vaillant, après la loi de sécurité intérieure Sarkozy. Tout un tas de dispositions qui ont fait reculer le droit d'asile et...
Et le droit en général.
Le droit des citoyens, les libertés publiques. Donc voilà, c'est ça la France, un pays, comme dit Clara, dirigé par des vieux, et surtout par des gens qui ont peur, en fait, j'ai l'impression. C'est pas que les dirigeants qui ont peur, c'est aussi la population qui a vieilli et qui élise des personnes conservatrices, qu'elles soient à l'UMP ou au Parti Socialiste. On voit en ce moment ce qui se passe, qui sont pas socialistes et qui copinent allègrement avec le MEDEF et compagnie.
Voilà, donc on va revenir sur nos petites lois qui nous intéressent, la loi de 1970 qui continue de faire des dégâts avec
trois victimes
exemples.
De la guerre à la drogue.
Voilà, trois exemples de la guerre à la drogue. Donc un petit autoproducteur, il avait 50 grammes d'herbe chez lui. Une petite plantation d'intérieur.
À Alençon.
Il a été arrêté. Il passait donc devant le tribunal correctionnel. Sa défense est qu'il préférait produire sa propre consommation pour arrêter de fumer de la merde. Surtout que ce jeune papa donc expliquait qu'il fumait toujours. Et sa justification, c'est qu'il en avait besoin pour faire remonter son insuline. Alors là-dessus, je suis pas médecin, c'est quelque chose que j'ai pas entendu, mais c'est fort possible, vu que souvent les fumeurs aiment bien le sucré, que ça soit totalement véridique et qu'il ait senti que l'herbe ou le cannabis lui faisait du bien et améliorait son état de santé et son taux d'insuline. Donc, en tout cas, voilà, lui, il a plaidé que c'était un médicament. Alors, il a sans doute été mal défendu, mais peut-être pas, ou le tribunal était très obtus, mais il a quand même été condamné à 4 mois d'emprisonnement.
Ferme. C'est une peine extrêmement lourde.
Tout à fait.
Faut le dire, c'est hallucinant. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu estomaqué, parce que... Après, c'est un petit article, il est pas très détaillé, on sait pas beaucoup plus, mais bon.
50 grammes. C'était dans West France, j'espère qu'il a fait appel et j'espère que ça se passerait mieux dans...
Moi, j'ai peur que le fait que justement chez lui, on ait retrouvé des balances de précision, ça laisse penser que, enfin, les magistrats, la justice aient pensé qu'en fait, c'était pas pour sa consommation, mais qu'il en vendait. Voilà, dans l'article, on n'en sait pas plus, c'est pas beaucoup plus détaillé. En tout cas, 50 grammes trouvés chez lui, quelques plants de cannabis, 29 ans, quelqu'un qui se prétend malade et qui prétend utiliser du cannabis pour se soigner et qui se prend 4 mois ferme, ouais, c'est fort là. C'est lourd.
C'est voilà. Très lourd.
On n'en sait pas plus non plus.
Voilà, deuxième cas, c'est la Nouvelle République, c'est dans le Loir-et-Cher. Donc c'est un jeune qui est déjà en prison, Benjamin, qui est...
un jeune expérimenté, 30 ans.
30 ans, ça doit être la 16e fois qu'il se retrouve devant le tribunal, donc... donc il y a beaucoup d'humour. Ben où c'est que vous habitez? Ben à la maison d'arrêt de Tours, dans laquelle il est incarcéré pour une autre affaire. Et donc là il est jugé parce qu'il a été arrêté en mai rue de Tourville à Blois en possession de 2 grammes de cannabis.
Au volant de sa voiture.
Ah, oui,
il fumait dans sa voiture. Malheureusement, ça attire l'attention. Soyez discret, encore une fois. Excusez-moi,
le tribunal donc lui demande vous fumez toujours, et lui bah oui, si je vous dis que non vous allez pas me croire, et donc le président pousse dans ses retranchements, même en prison, et bah oui, même en prison, et donc le magistrat est sidéré, dit vous n'avez pas la volonté d'arrêter, et là le jeune qui répond quand on est à la rue monsieur il n'y a plus de volonté. Voilà, donc Benjamin raconte un peu sa vie, raconte un peu ses déboires, raconte sa famille, sa fille de 8 ans, l'enfant à naître. Donc voilà, il est malgré toutes ses bévues avec la justice, ben il a quand même une vie. Voilà, en tout cas, le procureur réclame 2 mois de prison. Et donc le tribunal a suivi les réquisitions et donc a rallongé de 2 mois sa détention. Sa détention actuelle. Donc ça fait 2 mois pour 2 grammes de cannabis, 1 mois par gramme.
Voilà.
Voilà, là aussi c'est quand même très 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 cher.
Ouais, ouais, et on a encore des gens qui nous disent qu'on ne met plus en prison des gens pour simple usage. Alors que là, c'est de l'usage, mais comme il en possède, hein, ouais, c'est pas de l'usage simple. Juste, je pense que le juge ne nous écoute pas ce soir. Je ne suis pas sûr que dans le Loir-et-Cher, on connaisse même l'existence de Radio Canu. Mais voilà, juste pour dire à ce magistrat qui est sidéré d'entendre Benjamin lui dire qu'il fume même en prison. Et voilà, donc pour ce magistrat, j'informe ce magistrat que s'il y a bien un endroit où on peut fumer tranquille et où on peut trouver du cannabis en abondance, et on peut fumer tranquille de 18h à 6h du matin, c'est bien en prison. Voilà, certainement l'endroit où on risque le moins de se faire choper dans ce créneau horaire. C'est très paradoxal, mais c'est ainsi.
Voilà, et puis pour continuer dans nos faits divers, c'est la grand-mère qui faisait des go-fast en 2 chevaux.
Des go-slow plutôt, mais bon. Ouais, go-fast dans l'article. Dans la dépêche du midi.
Voilà, une quand même. Donc Morissette, hein, mais c'est pas son vrai prénom, 83 ans, mère de 3 enfants, grand-mère de 8 petits-enfants, donc faisait, a reconnu donc avoir acheminé de grandes quantités de drogue entre l'Ariège et le Lot. Donc elle s'est fait arrêter sur la départementale 119
à hauteur de Tourtrol.
Parce qu'elle roulait à 103 km/h au volant de sa Deux-Doches.
Année 57. En plus, une...
Donc, contrôle papier, alcoolémie, mais les gendarmes s'étonnent de voir le bas de caisse, la voiture quand même très lourdement chargée.
Et bien ras du sol. Hein.
Donc, ils la fouillent et ils ont trouvé à l'intérieur 875 kilos de cannabis dans l'automobile. Après, ils sont allés chez elle et ils ont trouvé dans la cave encore 300 autres kilos de stupéfiants. Donc, elle est passée aux aveux et elle raconte que depuis 5 ans, elle faisait donc entre 3 et 4 go-fast par semaine. Donc,
de Mirepoix à Rocamadour, dans le Lot, sur la cause du Quercy.
Voilà, donc en fait, elle faisait uniquement la mule sur ce trajet d'un peu plus de 300 km. Toujours en 2 chevaux, donc voilà, on lui apportait la marchandise. Et les gens déchargeaient sa marchandise. D'ailleurs, ces 800-900 kilos dans la voiture étaient déchargés en moins d'un quart d'heure. Donc c'était des affaires rudement menées. Donc elle n'a donné aucun nom, puisqu'elle disait qu'elle ne connaissait pas le nom de ses collaborateurs. Mais bon, voilà, on va voir ce qui va se passer pour elle, si on arrive à choper des articles. Voilà, sur cette affaire.
Donc, je vous invite quand même à vous rendre sur le site internet de ladépêchedumidi.com et à trouver l'article et le lire, parce qu'il est plutôt bien écrit et de manière un peu humoristique. Et voilà, s'il y a des gens qui ont déjà vu le film Paulette avec Bernadette Lafont, quelque part, ça fait un petit peu penser à Paulette. Voilà.
Voilà, et puis avant de parler en musique de nouveau, on va peut-être se faire l'article sur la Belgique, où là-bas ils savent pas où ils ont mal. Donc ben après quelques mois sans vraiment gouvernement, quelques mois voire quelques années sans gouvernement, ils ont trouvé un accord sur un gouvernement de centre droit, on va dire. Et là, donc, qui reviendrait sur la tolérance qui avait été ou qui était plus ou moins appliquée en Belgique, sur de pouvoir cultiver quelques plants de haschich, pouvoir créer des cannabis social club. Donc, on vous en avait parlé la semaine dernière, ils ont été un peu démantelés. Et là, de nouveau, le gouvernement dit que rappelle que la détention de drogue est interdite, que la consommation de drogue dans l'espace public ne pourra pas faire l'objet d'une tolérance. Donc, traduction, la directive de 2005 du ministère de la Justice a été annulée. Donc, elle prévoyait la détention de 3 grammes maximum ou d'un plant de cannabis par majeur de plus de 18 ans. Donc, tout ça a l'air de voler en éclats. Et donc, ben, les associations un petit peu vertes ou cannabiques disent que c'est un scandale que de ne pas laisser l'émergence de modèles alternatifs apparaître. Et que voilà, donc les autorités ne donnent aucune opportunité à une évolution, à contrôler cette substance tant qu'elle reste illégale, et pire, en renforçant la prohibition, donc on va continuer à alimenter les trafics et l'économie parallèle, et ainsi donc bien sûr la criminalité. Voilà, donc Belgique, pas de bonnes nouvelles, un petit retour en arrière.
Ben ouais, carrément, hein, parce que c'était quand même bien parti depuis 2005 et même depuis 2001, parce que ça avait commencé un peu à cette époque. Et là, visiblement, ils suivent les traces hexagonales, quoi, du pays voisin. Bon, après, on verra.
Allez, on fait un petit peu de musique, puis on revient pour la fin de notre actualité.
Je parle pas la langue de Molière, je suis un prolo gentilhomme. Pourtant j'aime les belles rimes, les tirades qui résonnent, et les mots qui m'animent, les mots qui me plaisent. Je suis loin de les avoir enregistrés à l'Académie française. Si sa corne gidouille autant que sa bédave, vive la rencontre lexicale du ciel et des caves. Il y a des mots épicés, des mots glacés dans le mictionnaire qui me sert à voyager. Et si je suis fumace, que le courroux violace mes airs enchantés, que j'ai envie que mon caillasse fracasse les vitrines de la Voie lactée, si j'ai le seum, que je vénère mon frère contre la terre entière, je m'exprimerai à l'envers pour cracher ma colère. Et si je suis heureux, tu vois au fond de mes yeux mon âme qui sourit, que j'écris en pagaille des salaves alexandrins pour dire merci la vie, que je fais des clins d'yeux aux muses pour que jamais ne s'use le bas-coup des trottoirs, ni les mots qui se croisent et s'en mêlent aux cordes de ma guitare. Je parle pas la langue de Molière, je suis un prolo gentilhomme. Pourtant j'aime les belles rimes, les tirades qui résonnent, et les mots qui m'animent, les mots qui me plaisent.
thèse. Je suis loin de les avoir enregistrés à l'Académie française.
La corne gidouille autant que ça bénave.
Vive la rencontre lexicale du ciel des caves. Y a des mots épicés, des mots glacés dans le dictionnaire qui me sert à voyager. Ici j'ai le cœur gros, qu'il pleut dans ma tête, des vers saturniens. J'ai le moral à zéro, plus de mal que de mots pour écrire un refrain. J'aimerais me jeter par terre comme un gamin qui réclame son Pokémon. Aïe, pas facile d'exprimer les affres d'un cœur qui bourdonne. Et si je suis amoureux et que je multiplie par deux les rêves et les doses d'espoir, que je ravitaille en couleurs et en fleurs les murs gris et les tableaux noirs, j'ai envie de chanter à l'envieux ma chérie, ma chérie, ma mi corazón. Et sa place au trombone. Gentilhomme, pourtant j'aime les belles rimes, les tirades qui résonnent. Y'a des mots qui m'animent, des mots qui me plaisent. Je suis loin de les avoir enregistrés à l'Académie française. Si sa corne gidouille autant que ça bédave. Vive la rencontre lexicale du ciel et des caves. Y'a des mots épicés, des mots glacés dans le dictionnaire qui me sert à voyager. Je parle pas la langue de Molière, moi je suis un prolo gentilhomme. Pourtant j'aime les belles rimes, les tirades qui résonnent. Y'a des mots qui m'animent, des mots qui me plaisent. Je suis loin de les avoir enregistrés à l'Académie française. Si sa corne gidouille autant que ça bédave. Vive la rencontre lexicale du ciel et des caves. Y'a des mots épicés, des mots glacés dans le dictionnaire qui me sert à voyager.
Et donc, on vient de s'écouter Thomas Picciot, le dictionnaire.
Il nous reste, allez, 7-8 minutes. Ouh, on va aller vite.
7-8 minutes, on va commencer par cet article du Point. La guerre aux drogues, une guerre contre les minorités ethniques. Il pose la question. La lutte contre la drogue serait-elle aussi une guerre raciale? C'est l'avis de certains et l'objet d'une étude du Think Tank. Du think tank République et Diversité. Donc il rappelle un petit peu ce qui se passe dans la guerre à la drogue lancée depuis 1970 par Nixon. Hein, tout ça aujourd'hui dans le monde. Donc on apprend qu'il y a 9 millions de personnes détenues et un quart de ces 9 millions, donc presque 3 millions, quoi, 2 millions 3. Sont enfermés pour des questions de loi sur les stupéfiants. Donc ça fait quand même pas mal, hein. Oui. Ça fait presque 0,5 à 1% de la population mondiale qui est enfermée pour des histoires de stupéfiants.
Et sur ce pourcent, 90% de ce pourcent l'est pour du cannabis. Voilà, il faut bien le dire, hein, quand même.
Donc, est-ce que c'est un aveuglement? Est-ce que c'est pas si sûr, puisque la question de la couleur, celle de la peau en l'occurrence, est venue éclairer d'un jour nouveau le prix payé. Donc, les anglo-saxons ont beaucoup plus travaillé que nous français, vu que eux, ils ont des statistiques ethniques, nous, on n'en a pas, bien, mal.
C'est interdit. En France, c'est
interdit. J'allais dire que je ne vais pas ouvrir le débat pour savoir si c'est bien ou si c'est mal d'avoir ce genre de statistiques ethniques. En tout cas, en France, c'est interdit. Néanmoins, ça n'empêche pas certains crétins comme Zemmour d'en parler et d'expliquer que tous les dealers sont noirs ou arabes. Je ne sais pas d'où il sort ça, mais voilà. À la limite, si on avait des réelles statistiques, il y aurait peut-être pas de connards comme ça qui pourraient dire n'importe quoi.
Après, ça dépend de ce qu'on entend par dealer et ce qu'on met derrière ce mot en termes de produit. Je suis pas sûr que chez Philip Morris, il y ait beaucoup d'Afro-Américains. Pourtant, Philip Morris, à mon avis, est certainement le plus gros dealer de la planète. Voilà. Jack Daniels, je sais pas. Bref. Voilà. Et les médicaments, j'en parle pas. Mediator, Prozac, Ritaline et compagnie. Tous ces labos, là.
Voilà, en tout cas, ce qui rappelle, hein, c'est Assud le disait, donc, mais nous sommes totalement d'accord avec lui. Depuis des décennies, toutes les statistiques montrent que les Noirs ne vendent ni ne consomment plus de drogue que les Blancs. Mais ça n'empêche pas que le public est arrivé à associer la couleur de peau avec les stupéfiants. Et voilà, les policiers aussi a priori, mais dans la réalité, on sait qu'il n'y a pas plus de consommateurs blancs que de consommateurs noirs, hein, statistiquement, et pas plus de dealers noirs que de dealers blancs ou que de dealers arabes. Mais pourtant, ceux-ci sont beaucoup plus enfermés que les autres. Voilà, donc c'est socialiste, c'est République et Diversité. Je ne sais pas qui est ce groupe où il appartient, mais en tout cas
c'est un think tank.
Voilà, mais bon, ça doit bien dépendre d'un parti politique. Je ne sais pas de qui il dépend. Voilà, mais en tout cas, ils ont travaillé avec les associations AFR, donc Association française pour la réduction des risques, si je ne me trompe pas, et le CRAN,
le Conseil représentatif des associations noires.
Voilà, donc ils ont essayé de travailler sur ces idées, sur cette réalité, se poser la question si cette guerre aux drogues n'était pas aussi une guerre aux banlieues, une guerre aux minorités ethniques, une guerre raciale. Voilà, mais a priori, ils ont remarqué que les idées reçues, en tout cas, sont tenaces, et donc il y a quand même beaucoup de travail là-dessus à faire. Et la deuxième chose qu'ils se sont posées comme question, c'est le contrôle faciès dont sont victimes les Noirs et les Arabes. D'où ça vient? Est-ce que ce n'est pas aussi non plus une conséquence de cette guerre aux drogues qui est aussi une guerre raciale? Voilà. En tout cas, moi, je ne sais pas jusqu'où ils vont, mais en tout cas, ils se posent des questions intéressantes et c'est bien.
Ouais. Alors. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est pas nouveau, hein, que de faire ce lien entre répression, racisme. Enfin bon, je repense à Jack Herer et L'Empereur et Nuit. Il le dit très clairement, il le démontre. C'est un bouquin qui a plus de 20 ans aujourd'hui.
Plus de 40 ans même.
Voire même plus de 40 ans. Donc bon, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que y a une politologue qui sort de l'establishment, hein, et qui a fait un travail sérieux, statistique ethnique à l'appui, autour des incarcérations, voilà, qui le dit d'une manière absolument claire. Là, c'est un travail universitaire. Enfin, je parle de Michel Alexander, hein, bien sûr. Mais bon, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, quoi.
Voilà, mais c'est pas niveau. Moi, je finirai par l'écrit d'un sociologue, Laurent Mucchielli.
Laurent Mucchielli, oui.
Qui dit, on ne peut que regretter amèrement la banalisation de l'usage de catégories raciales comme si elles étaient en elles-mêmes explicatives de quoi que ce soit. S'il existe une relation entre la couleur de peau et le trafic de drogue, alors il faut l'expliquer, la nature de cette relation. Ou bien se taire.
Ça, c'est pour Éric Zemmour.
C'est exact. Mais voilà, en tout cas, on sait qu'il n'y a pas de relation directe entre les deux. Néanmoins.
Non, puis en plus, si effectivement, quand on parle de drogue, on parle de produits interdits et que derrière on dit que c'est des Noirs et des Arabes, mais qu'on ne parle pas des cigarettes, des médicaments, de l'alcool, cigarettes et tabac et alcool, hein. Quand même le dire, hein, ça tue des centaines et des centaines de milliers de personnes par an dans le monde. Mmh. Et que derrière ces substances, on ne voit pas de gros intérêts économiques et qu'on ne parle pas de dealers, bah, oui, forcément, ces billets-là sont vite pris, quoi. Enfin, c'est quand même fou, quoi.
Voilà, donc il nous reste plus beaucoup de temps pour traiter les deux derniers articles qui traitent un petit peu de l'héroïne. Donc on parlera pas de New York, de l'héroïne qui revient en charge, qui revient en force, les Américains en particulier. Donc là, c'est un reportage dans le à New York, dans un quartier de classe moyenne, donc à majorité blanche, donc qui explique quand même où il y a de plus en plus de surdoses d'opiacés. et se sont rendus compte que c'était l'industrie pharmaceutique qui avait plus ou moins engendré ça. Les gens prenaient des opiacés, mais plus des pilules d'opiacés. Et puis comme le gouvernement s'en est rendu compte, ils ont réduit un petit peu et contrôlé un petit peu mieux leur filière d'approvisionnement d'opiacés pharmaceutiques. Et du coup, maintenant, c'est de l'héroïne qui arrive, de l'héroïne qui vient même plus d'Afghanistan, mais quasiment que du Mexique et de l'Amérique du Sud. Donc des héroïnes assez pures, hein, puisque si dans les années 80 elle était dosée à 6 à 10%, aujourd'hui les échantillons testés contiendraient entre 40 et 60% d'héroïne pure. Donc maintenant New York est confronté à beaucoup plus d'héroïne et d'Américains, je dirais, accros aux opiacés. Non pas par le biais de l'héroïne, mais par le biais des médicaments. Donc c'est des choses assez assez étranges. C'est un petit peu ce qu'on peut dire et on finira par. Il y en a beaucoup qui sont allés en prison pour ces problèmes d'héroïne. Ils ont continué à en trouver évidemment en prison. Et en sorte, par contre, l'héroïne en prison est quand même a priori beaucoup moins dosée. Et donc, du coup, en sortant de prison, il y a beaucoup de prisonniers qui font des overdoses.
Mais oui.
Voilà, ce qu'on peut, on va pas dire grand chose d'autre de plus sur cet article.
Juste pour dire que si l'héroïne s'est développée à New York et sur la côte est et aux États-Unis, c'est aussi parce qu'il y a eu une guerre contre le cannabis. Faut pas l'oublier non plus, quoi. Puis après, l'héroïne, après, il y a eu le crack à New York, enfin. C'est malheureusement, c'est savamment, je dirais, créé et entretenu. C'est pas par hasard tout ça, quoi.
Voilà. Et puis on va revenir aussi, on reviendra sans doute dans les émissions qui arrivent sur cette dernière info qui vient du ministère de la Santé, qui a mis en place des salles d'injection sous contrôle médical. Et donc, entre autres, il parle de l'exemple de Rennes, où une douzaine de personnes ont été suivies et accompagnées dans leur prise de drogue. Et donc, ils avaient des dates et des horaires sur lesquels ils venaient, où ils s'injectaient ça sous contrôle médical.
Ah, ce sont des drogues injectables.
Hein. Oui, tout à fait.
Du cannabis dans la salle de consommation.
Et voilà, donc, et il conclut à Rennes, comme dans les 7 autres villes, le test est aujourd'hui terminé et les scientifiques plaident pour une généralisation rapide de ce dispositif. Donc peut-être qu'on va voir apparaître des centres d'injection à moindre risque assez rapidement. Mais bon, avec ce gouvernement, comme on le dit souvent, rien n'est moins sûr.
Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus. Aujourd'hui, lundi 10 novembre. Vous pouvez contacter le cirque par téléphone 06 11 53 10 07, par mail cirque-lyon@no-log.org, cirque Lyon BP 93 043 69 605, Villeurbanne CEDEX.
Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur le cirque Lyon. Et donc, je vous rappelle le téléphone si vous avez pris un stylo là entre temps, depuis qu'on vient de vous le dire. 06 11 53 10 07. 06 11 53 10 07. Allez, salut à tous, salut
chasseurs
à tous.
Chasseurs de son maintenant.
Et bonne soirée, fumez bien, fumez sain, et à la semaine prochaine.